Voilà, j'ai une question. Il me semble que la grosse difficulté dans cette situation, c'est d'identifier le système. Alors, il me semble que... alors, d'après l'énoncé, finalement, ce que vous avez donné, c'est une règle de contrat. La question se pose à propos du traîneau. Donc, le système, c'est le traîneau et patati patata. Donc, est-ce qu'il y a des savoirs pour identifier le système? Est-ce qu'il y a moyen de travailler ce point-là qui me paraît le plus difficile dans votre problème?
Donc, ce problème du système étudié, en fait, il n'y a pas un savoir explicite, plutôt implicite. Je pense que les élèves, souvent, au début, choisiront comme système étudié le traîneau et le renne. Donc, l'ensemble de ça. Ils ne vont pas tout de suite penser que c'est le traîneau qui est le système pertinent. Mais là, on peut les aider. En fait, en discutant, on se demande si le système choisi est traîneau et le renne. C'est des forces dont on parle dans l'énoncé, en fait, elles deviennent des forces intérieures. Là, on voit que ça ne nous aide pas à résoudre le problème.
Mais comment faire travailler les élèves?
Oui, je voulais aller dans le même sens que Rual, peut-être avec un point de vue un peu différent. Moi, je ne suis pas du tout physicien. Je pense même que je peux assez bien modéliser un élève en difficulté. Et je trouve qu'il y a une tromperie, enfin, de mon point de vue d'élève en difficulté, je ressens comme une tromperie le fait que dans l'énoncé du problème, il est question de la force que le renne exerce sur le traîneau, et puis que dans la solution, elle est évacuée, cette force-là. Alors moi, je me pose quand même la question, j'ai dit dans le bon sens, la force que le traîneau exerce sur le renne. Hein. Moi, je me pose quand même la question, qu'est-ce qu'il advient du renne? Pourquoi est-ce qu'il recule pas le renne, puisqu'il y a cette grosse force qui s'exerce sur lui? C'est ça. Ok, vous me dites qu'on ne s'occupe que du traîneau, mais il y a un problème avec cette force qui s'exerce sur le renne.
Ça peut être la suite du problème. On peut se demander qu'est-ce qui se passe avec le renne, choisir le renne comme le système étudié et refaire tout ça pour le renne. Donc là, on aboutirait à une même chose. Donc c'est aussi, on verrait qu'on peut raisonner de cette façon à plusieurs reprises. Donc on peut appliquer ce raisonnement en plusieurs situations.
Alors peut-être qu'effectivement, ça dépend beaucoup à quel moment on se place, parce que Yvetta a expérimenté ça et on est vraiment en fin de parcours. Donc en fait, les confusions que les élèves font entre les différentes lois sont peut-être pas si fréquentes que ça. Ils ont quand même beaucoup d'outils, donc... si tu leur rappelles, attention, regarde bien le système sur lequel tu travailles, ça règle le problème. Ceci dit, c'est vrai que de retravailler sur le système renne, mais alors il faut rajouter la force, l'effort du renne et le frottement des sabots sur le sol, etc., etc. Donc on est dans une...
Mais la situation quand même devient assez lourde.
Voilà. Oui,
on ne peut pas tout...
Oui, mais justement, je pense, je suis bien d'accord pour expliciter le contrat. Parce qu'il y a quand même un problème. Dire que cette situation, c'est une question de la situation de la vie quotidienne, je suis vraiment très sceptique là-dessus. Puisque vous, la situation que vous avez choisie, c'est pour essayer d'essayer d'aider les élèves à différencier le principe d'interaction, des actions réciproques et le principe d'inertie. Enfin, le deuxième lanune. Et en fait, c'est un problème qui est strictement interne à la physique. Strictement interne à la physique. Dans la vie de tous les jours, on se fiche complètement du principe des interactions et des lois de Newton. Donc en fait, vous avez l'air de dire aux élèves, par cette situation, c'est une situation de la vie de tous les jours, et en fait, ce qu'ils ont à réaliser, c'est vraiment penser la théorie de la mécanique, qui est tout à fait importante. Je ne dis pas du tout que ce n'est pas important. Mais en fait, il y a un problème de contrat, me semble-t-il, avec les élèves, parce que vous n'expliquez cette analyse avec le traîneau choisi comme système, n'expliquant rien le mouvement du traîneau et du renne. Et de toute façon, la mécanique ne va pas expliquer le pourquoi. Si on veut expliquer le pourquoi, il vaut beaucoup, beaucoup mieux passer à une analyse en termes d'énergie et pas à une analyse en termes de mécanique. Donc, en fait, il faut bien que l'élève, s'il veut jouer le jeu et jouer le jeu que vous proposez dans la situation, y compris les stagiaires, avoir un point de vue assez clair sur ce que la mécanique peut faire et peut expliquer et ne peut pas expliquer. Et dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est vraiment un problème de compréhension des lois de la mécanique. Et après tout, pourquoi pas? Les élèves peuvent accepter de jouer ce jeu. Mais pas en lui disant que c'est un jeu de la vie tous les, une situation de la vie de tous les jours. On apprend, mais pour interpréter vraiment d'un point de vue physique. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un problème de contrat explicité avec les élèves pour cette situation.
Bon, cette situation est intéressante, mais elle est complexe. Parce que je crois que vous partiez de l'idée que le principe d'inertie est acquis par les élèves. Cette situation, elle peut mettre à défaut l'acquisition du principe d'inertie. Parce que peut-être, on s'attend, là je m'attends, à ce que les élèves font la résolution dans la solution en disant que la force exercée par le renne est plus grande que la force exercée par le traîneau sur le renne. Il passe pas par la deuxième loi, il contredise même la troisième loi pour résoudre ça. Est-ce qu'il ne faut pas prendre ça en considération dans le modèle du demande et mettre quelque part que cette façon d'expliquer peut ressortir? Parce que c'est connu que le principe, la troisième loi, elle est acquise lorsque les corps sont immobiles. Mais lorsqu'ils sont en mouvement, ce n'est pas acquis.
C'est une remarque assez intéressante, mais comme réponse, peut-être que je pourrais dire que cette situation-là est conçue pour une séance, peut-être la dernière de la terminale, c'est-à-dire on fait une conclusion de tous les savoirs acquis et on va voir des obstacles qui peut-être sont cachés.
Oui, mais on ne résout pas le problème en disant que les élèves savent déjà et que du coup on ne s'occupe pas de ce problème. Non, je crois que là, je pense que la remarque est très pertinente. Tout à fait. Et je pense qu'il faut bien réfléchir effectivement aux effets pervers des problèmes qu'on peut donner. Et ce que les élèves peuvent finalement en retirer comme apprentissage non désiré, même complètement implicite, qui risque de ressortir par la suite. En fait.
Et quel jeu vous voulez faire jouer aux élèves ?
Voilà. Et aussi.
Rendre explicite.
Oui. Je pense que ça, c'est une partie qui doit être prise en compte. Ouais.
Merci.
Merci.
Projette déjà ça ou pas?
Ouais.
Donc, je les ai perdus.
Allez, je ne sais pas les problèmes ouverts.
Ouais.
Ah, parce que je suis en train de me
servir. Ouais, j'ai pas enlevé les trucs.
Tu y es là?
Ouais.
Voilà, alors ce qu'on vous présente, c'est plus qu'une situation de formation, parce que c'est une situation sur la durée, disons, en tout cas, de formation, pour des enseignants en formation de mathématiques. Une partie de l'atelier de didactique sera dévolue au travail sur le problème ouvert. La notion de problème ouvert, tout le monde connaît ça ici, j'imagine. Enfin, on va peut-être la rappeler quand même. Tu l'as, la définition,
ouais.
Là? Voilà, donc le but du problème ouvert, classiquement, tel qu'il a été développé ici à l'IRAM de Lyon, c'est de mettre l'élève dans une démarche de recherche de type essai, conjecture, test, preuve. Et ce problème doit, pour cela, présenter au moins les caractéristiques suivantes: un énoncé court et compréhensible, un énoncé qui ne contient ni la méthode ni la solution pour qu'il soit effectivement ouvert. Et puis un énoncé qui permet à tous les élèves de s'engager facilement dans un travail de recherche, au moins en faisant des essais, justement, des observations sur des cas simples. On peut revenir aux objectifs là. Alors pourquoi on veut faire travailler les étudiants en formation sur ce concept-là, en articulation avec ce qu'ils font dans les classes, hein. Ce sont des enseignants, des enseignants en formation, c'est ça. Donc ils ont une partie d'enseignement en responsabilité et une partie de formation. Ce qu'on aimerait, c'est que chaque étudiant soit capable de mettre en place et de gérer dans une de ses classes au moins, et sous notre regard, un contrat didactique qui permet de faire entrer les élèves dans la démarche en question. Pour cela, ce qui est à la fois important et difficile, d'après notre expérience, c'est d'arriver à faire adapter aux enseignants en formation un changement de posture, hein, de se déplacer de la posture qu'ils adoptent assez naturellement en entrant dans le métier, qui est celle de détenteur du savoir, détenteur et transmetteur du savoir, et de se mettre, au moins ponctuellement, provisoirement, dans une position de retrait, d'animateur pendant la période de recherche, qui n'est en tout cas pas un détenteur du savoir. Donc voilà. Et puis évidemment, pourquoi insister sur ce travail, sur des problèmes ouverts qui sont des activités ponctuelles telles qu'elles se déroulent classiquement, hein, qui sont des activités ponctuelles dans le cursus de l'année. Ben parce que derrière ça, il y a un pari, et ce pari, c'est que le transfert de ces gestes, le fait d'adopter, d'être capable de se déplacer de la posture de détenteur de savoir, détenteur et transmetteur, vers la posture de animateur, facilitateur, si elle est réussie dans un certain nombre de cas ponctuels, eh bien, cette compétence-là va se transférer plus ou moins naturellement, c'est un pari, hein, c'est une conjecture, y compris dans la pratique d'enseignement usuel. Voilà. À partir de là, on ne va pas détailler, mais le travail, ça consiste à faire travailler les étudiants en atelier eux-mêmes sur des recherches de problèmes ouverts, et puis ensuite leur demander de mettre en place de telles pratiques dans leur classe.
Alors, je te laisse passer à la suite. Oui, je rajouterais qu'effectivement, cette mise en place est exigée dans l'observation des étudiants sur le terrain, donc ils doivent ces deux points doivent être sont évalués lors d'une visite ou d'une série de visites si jusqu'à ce que ces deux points soient observés. D'autre part, les étudiants ont quand même doivent également faire ce qui est demandé dans la séquence de formation, c'est d'effectuer une analyse du problème ouvert, éventuellement celui qui a été observé, ou d'une autre mise en place d'un problème ouvert. Alors là, on retrouve plutôt les éléments d'analyse d'une situation, quoique concernant le problème ouvert, c'est un petit peu différent. Il faut adapter l'analyse a priori telle qu'on la connaît par rapport à un enseignement, à la question du problème ouvert. Donc, un travail est fait sur l'adaptation de ce type d'analyse. Ensuite, il s'avère quand même la question de l'institutionnalisation se pose assez rapidement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est fait des savoirs, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui va être fait des savoirs repérés lors d'une mise en place de problèmes ouverts. D'autre part, les propositions de problèmes ouverts sont relativement riches et ils peuvent être de type extrêmement différent. Entre la situation que j'appelle situation, c'est-à-dire situation visant l'élaboration, enfin d'un savoir visé, situation au sens de Guy Brousseau, et un problème ouvert, il y a toute une série d'intermédiaires, et donc on est rapidement venu, après discussion et dans le cours du travail, à devoir intégrer ce travail sur les caractéristiques des différentes situations, hein, Et le contrat a été élargi à la possibilité de proposer une situation menant un débat ayant pour but l'apprentissage de règles de raisonnement, ce qui se rapproche aux situations problèmes. Mais du point de vue des objectifs, les points 1 et 2 sont également peuvent être également là-dedans. Atteint dans une situation là, et d'ailleurs même dans une situation problème ou un savoir effectivement visé, on a également la possibilité de faire atteindre ces objectifs de formation. D'où un troisième objectif de formation qui est demandé, c'est d'identifier les caractéristiques de la situation, y compris les institutionnalisations éventuelles. Et c'est un des points qui, avec l'analyse a priori, qui sera demandé soit dans une présentation, soit dans un dossier. Bon, voilà. Alors ça, c'est un travail vraiment en cours d'élaboration, ce travail sur les problèmes ouverts dans un atelier de relativement long terme. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est 3 crédits. Hein, je ne sais pas si ça vous parle. Ça veut dire une trentaine d'heures. Hein. Ça veut dire une trentaine d'heures. Donc, c'est quand même assez conséquent. Au-delà du travail de mise en situation des stagiaires, il y a eu également un travail d'analyse de vidéos pour travailler ce troisième objectif, c'est-à-dire identifier les différentes caractéristiques et puis les différents gestes des enseignants lors des phases d'institutionnalisation. Voilà, quant au transfert de ces... Donc le travail est en cours, c'est-à-dire, c'est clair que faire le pari du transfert de ces gestes implique quand même la mise en place de situations de formation adaptées en fonction de ceci, et ça, c'est un champ qui est encore ouvert dans toute l'équipe de formation, puisque dès l'an prochain, il y aura cette année, on peut dire expérimentale, les observateurs sur le terrain sont les mêmes que ceux qui gèrent l'atelier. Dès l'année prochaine, il y aura des troisièmes acteurs qui sont les formateurs de terrain, ceux qui vont suivre les stagiaires sur le terrain et qui seront par les mêmes personnes qui gèrent cet atelier. D'où une complexité plus grande et une réflexion en cours sur la gestion de cette articulation.
Voilà. J'ajoute encore une chose. On a eu un débat, pas entièrement clos d'ailleurs, concernant le type de problèmes sur lesquels... On cherchait à faire travailler les étudiants, type de problème ouvert. Alors, si on parle de problème ouvert au sens strict, selon la définition qu'on a vue tout à l'heure, en général, on n'est pas, enfin même spécifiquement, on n'est pas en train de travailler en nouveau savoir mathématique, on n'est pas en train de viser en nouveau savoir mathématique. Donc là, on est assez nettement en décalage avec ce qui a été vu ici jusqu'à maintenant, ce qui a été présenté en termes d'analyse d'activité, puisque à peu près de manière constante, il s'agit toujours d'activités destinées à mettre en place une nouvelle connaissance pour les élèves. Et alors du coup, c'est posé la question, et puis est sujet de débat la question, est-ce que ça a du sens de faire travailler les élèves de cette manière-là, et est-ce que ça a du sens de faire travailler les étudiants en formation, de les inciter à faire travailler leurs élèves sur des problèmes un petit peu hors curriculum, si on veut, mais qui sont néanmoins des activités de réinvestissement, clairement, hein, de savoir supposé acquis. Et là, je voulais juste dire, il me semble que je trouve qu'on éprouve un manque de cadre théorique par rapport à ces activités ou situations de réinvestissement, de consolidation, de savoir déjà acquis. Il me semble que, on a vu là ces derniers jours qu'on parle beaucoup on théorise beaucoup les activités visant un savoir nouveau, mais on manque un peu de cadre théorique de référence pour des activités visant uniquement en retour sur des savoirs plus anciens.
Euh, Oui, alors je ne sais pas si c'est une question. Enfin, c'est, je voudrais poursuivre cette réflexion parce que je suis moi-même. Enfin, je vais rajouter une couche sur tout ce que tu as dit là. Je ne sais pas par où je commence parce que j'ai plein de choses à dire. D'abord, moi je voulais dire un truc qui m'a beaucoup frappée en tant que formatrice, depuis combien ? Je ne sais plus de 10 ans. Par exemple, nous, à l'UFM, on faisait, parce qu'on en fait moins finalement, on faisait une ou deux séances sur le problème ouvert, exactement comme vous l'avez décrite, avec ce pari très fort de transfert, et après je reviendrai aussi sur cette histoire de transfert, avec ce pari très fort. Et puis, moi je me suis aperçue au fil des années, alors il y avait toujours des stagiaires que ça accrochait, et qui faisaient un mémoire là-dessus. Après, ils prenaient comme mémoire mettre en place un problème ouvert dans ma classe de 4e, seconde, etc. Et puis, je me suis trouvée souvent être jury de ce type de mémoire. Et puis, alors, donc, les stagiaires, ils font leur truc, très bien, parfait. D'abord, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on retombe très souvent sur les mêmes problèmes. Bon, je sais pas, ça, je lance la discussion. Et puis, deuxièmement, à la fin de la soutenance, question. Et moi, en général, je pose toujours la question. Bon, d'accord, vous avez fait ce travail, c'est très bien, machin et tout. Mais qu'est-ce que vous en avez retenu pour votre pratique quotidienne? Et là, en général, grand blanc, d'une, ils ne se sont pas posé la question, et de deux, quand je dis alors, mais sur quoi ça a pu avoir une influence, qu'est-ce que vous avez changé dans votre pratique quotidienne, la réponse, en général, c'est, oh ben rien, je fais comme d'habitude. Donc, ce problème du transfert, ça, moi, ça m'a alerté depuis longtemps, cette histoire-là. Bon, donc ça, c'est une première chose, et du coup, je suis allée un peu regarder toutes ces choses-là, Et moi, je me dis que dans le transfert, il me semble déjà qu'il y a deux niveaux de transfert, ce qui doit en rajouter une difficulté. Il me semble qu'il y a un premier transfert qui est, on fait vivre à des étudiants ou à des stagiaires une situation de problème ouvert pour eux, et on fait un premier pari que ce qu'ils ont vécu pour eux, ils vont le transformer. C'est un peu ce qu'a défini Kuzniak et Oudman, c'est l'homologie, en gros. On pense que la façon dont on va former les gens, ils vont le reproduire dans leur classe. Donc ça, c'est un premier pari, et c'est pas gagné. Et puis, deuxième pari, c'est ce que tu disais, c'est une pratique qui apparaît comme exceptionnelle. Alors, la question, faudrait se poser, pourquoi est-ce que ça apparaît comme exceptionnel et tout. Et du coup, deuxième transfert, de cette pratique un peu exceptionnelle vers une pratique quotidienne. C'est-à-dire pratique quotidienne dans le sens où, on a un programme, on a des évaluations, on a des chapitres, on a des choses comme ça. Bon, donc il y a deux niveaux de transfert déjà. Et là, je pense que on connaît les difficultés du transfert. Alors si on en met plusieurs, donc je pense que là il y a une vraie difficulté. Et puis la troisième chose que je voulais faire, c'est que en juin, là, à la CopyRLM, avec Catherine Oudman, on avait fait un exposé sur les problèmes. On a regardé ça sur le long terme, comment ça avait évolué et tout. Et du coup, je me suis replongée dans la lecture, par exemple, du livre du problème ouvert. Et moi, il me semble que derrière, c'est une hypothèse que je fais parce qu'il faudrait la vérifier auprès des auteurs, mais derrière ce que développaient les gens dans leur bouquin, dans la première version, c'est l'idée qu'on va agir sur les pratiques des profs en parlant des apprentissages des élèves. Et ça, je me demande si c'est réaliste. Vous voyez, on veut faire changer les pratiques des profs, mais en gros, on leur donne pas le contrat, on dit pas il faut changer vos pratiques de profs, mais on leur dit regardez, vous allez faire comme ça, les apprentissages des élèves, c'est ci, c'est là et tout, et vous allez faire comme ça, et on fait le pari que ça va changer. Et ça, je me demande s'il faudrait pas une explicitation très forte là-dessus. Pour justement faire bouger la pratique quotidienne cette fois-ci. Enfin, je sais pas, moi, c'est toute une série de questions que j'ai. En plus, je vois pas pourquoi on met vraiment cette exigence que il y ait pas de savoir visé ou tout ça. Parce qu'en plus, pour les stagiaires, cette idée de il y a pas vraiment de savoir visé, ça se transforme très souvent dans leur compréhension. Il y a aucun savoir visé. Alors ça, c'est terrible de penser ça. Enfin, voilà, je veux dire qu'il y a peut-être des choses qui sont pas claires parce qu'on les explicite pas assez. Enfin voilà. Bon, c'est tout plein de réflexions, mais je sais pas si j'ai été très claire.
Mais t'as bien illustré le débat qu'on a à l'intérieur du groupe aussi. Donc oui, pour nous, c'est effectivement assez clair. Maintenant, je dirais par rapport au Ton constat là, de dire quand je leur demande aux étudiants qu'est-ce que vous en tirez pour vos pratiques quotidiennes, ils sont secs, quoi.
Ils n'ont même pas posé la question à la limite.
C'est ça.
Ce qui montre bien ce truc un peu inhabituel, moi je trouve. Mm-hmm.
Enfin. Alors bon, c'est sûr que c'est un constat important et dont il faut tenir compte. Maintenant, à mon avis, il faut quand même peut-être un tout petit peu distinguer. Ce serait raisonnable de distinguer ce que disent les étudiants de l'influence que, disons, qu'exerce cette pratique sur leur pratique quotidienne et ce qu'il en est réellement, quoi. Parce que le transfert, il agit à des niveaux assez fins et je suis pas sûr qu'il soit toujours capable, rapidement du moins, de les repérer, de les formaliser, de les expliciter, quoi.
Ouais, je peux rajouter quelque chose, peut-être pour un constat quand même un peu plus positif par rapport à ce que tu as dit. Ouais, ouais. Non, mais à Genève, en Suisse romande, il y a, indépendamment du travaux de Lyon, il y a un courant plus ou moins parallèle sur la résolution de problèmes, sur les situations mathématiques également, ça s'appelle comme ça, également au primaire. Et dans l'échantillon qu'on a de vidéos, de leçons, que ça fait cinquième année, hein, il y a quand même un pourcentage de leçons dans lesquelles soit apparaissent dans lesquelles apparaissent la mise en place d'un contrat didactique différent, hein, avec posture d'observateur de l'élève. Alors, ça inclut tout, hein, ça inclut des situations, etc. Donc, un certain nombre d'enseignants, suite à des démarches de formation également, qui ont été menées dans les années 80-90 à Genève, 90, je pense, y a déjà des bribes de quelque chose. Donc, on peut, alors on sait pas pourquoi, il y a une certaine évolution, y compris dans des ce que j'appelle des micro-situations, des micro-débats dans des cours ordinaires. Donc il y a des bribes de quelque chose et donc il y a un espoir de ça. Mais alors là, je suis entièrement d'accord sur la question du transfert, ça reste vraiment une conjecture et il faut vraiment travailler dur, comme tu le fais, pour bien comprendre ce qui se passe, pour réaliser ceci. Et c'est, finalement, c'est un projet de pour nous, c'est vraiment des questions de prendre ça vraiment au sérieux et d'essayer de voir ce qui se passe. Ceci dit, concernant l'institutionnalisation, la volée actuelle est constituée de gens qui ont master en mathématiques, donc ils ont, de ce que j'ai observé, ils repèrent assez facilement des savoirs mathématiques, même dans une situation de problème. Ouais, donc, ils les vivent et les repèrent assez rapidement. Donc, c'est pas ce problème-là. Mais par contre, c'est un problème qu'on peut avoir avec des instituteurs.